debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave.
Bonjour et bienvenue à l'émission radio du collectif Debout, collectif féministe, nancéen et mixte. Et aujourd'hui, nous sommes trois au micro. Moi, c'est Maya.
Moi, c'est Marion.
Patricia.
Et donc, l'émission est diffusée sur RCN 90.7 à Nancy et aussi depuis le mois dernier sur Radio Les Clics, donc une radio alternative Lorraine. On a pu enregistrer chez eux le mois dernier et puis on les remercie de diffuser aussi notre émission. Et aujourd'hui, l'émission va être consacrée à la Marche mondiale des femmes, ce mouvement international que le collectif Debout a rejoint il y a 5 ans. Et voilà, on va vous expliquer, on va en savoir plus. Et on va commencer par la rubrique Actualité.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
Solidarité avec les femmes du monde entier, c'est un des slogans de la Marche mondiale des femmes. Et à cette occasion, donc le 24 avril, il y a eu une action féministe internationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 24 avril ?
Donc, le 24 avril 2013, il faut rappeler qu'au Bangladesh, il y a eu un effondrement du Rana Plaza. C'était un bâtiment qui abritait des ateliers de confection, donc qui était là pour les grandes marques hein, comme Mango, Benetton, H&M et j'en passe. Ça a entraîné la mort de 1135 personnes, qui étaient surtout de très jeunes femmes. Pourtant, la veille, des inspecteurs de travail avaient découvert des fissures dans l'immeuble. Ils avaient demandé l'évacuation, mais les salariés se sont vus enjoints de venir le lendemain sans que ça leur pose problème. Hein. Et du coup, ça donnait lieu à beaucoup de morts. Et pour commémorer cette catastrophe, on a fait donc le 24 avril 2015 un tractage sur Nancy afin d'informer un peu les gens du fait que ces victimes, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas été indemnisées par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc le but, c'était vraiment de dénoncer ça, de montrer qu'il est important de se dire qu'on ne veut pas de sang sur nos fringues, tout simplement. Donc il faut vraiment trouver des solutions alternatives et faire pression sur ces grandes firmes qui, elles, se font des millions pendant que de pauvres gens, eux, se font exploiter.
Oui, donc c'est pour ça que donc, le 24 avril 2013 au Bangladesh, l'effondrement du Rana Plaza, bâtiment qui abritait des ateliers de confection de vêtements pour les grandes marques occidentales. Et donc, ça a été décidé au niveau international, donc le 24 avril 2015, partout dans le monde, de midi à 13h, de faire une action de solidarité. Nous, on a été au centre-ville, on a été à voir H&M, Benetton, Camailleux, pour leur dire qu'on ne veut pas de sang sur nos fringues. Et voilà, Benetton, Camailleux, par exemple, sont des marques qui refusent encore d'indemniser les familles des victimes, alors que voilà, c'est des marques qui se font beaucoup d'argent là-dessus, qui ont des belles campagnes de publicité. On pouvait aller voir sur leur site, ils font de la production éthique, etc. Et bien sûr, c'est uniquement du discours marketing et la réalité qui est derrière est beaucoup plus tragique. D'ailleurs, on a fait aussi une soirée d'information à ce sujet en avril et on a projeté le film Le Monde selon H&M hein, qui explique justement tous les systèmes, ce système qui permet d'avoir un tel décalage entre ces grandes marques occidentales et la réalité des conditions de travail qui sont derrière. Donc voilà, on n'oublie pas, on ne lâche pas. Solidarité avec les femmes du monde entier. Donc ça, c'était en lien avec la Marche mondiale des femmes. Et un autre événement dans l'actualité, ben, ce sera début juin. Il y a une agora féministe à Nantes. Donc, c'est un rassemblement national de la Marche mondiale des femmes. Donc, il y a un grand moment tous les 5 ans. Donc, le dernier, c'était en 2010. C'était à Montreuil. Cette année, c'est à Nantes, organisé conjointement avec l'espace Simone de Beauvoir. Donc, sur tout le week-end, il y a un programme donc, avec l'ouverture de ce forum national, avec une table ronde sur les violences faites aux femmes, l'accueil de la caravane européenne, une conférence de presse. D'autres thèmes seront développés le samedi après-midi, migration et mondialisation et travail et autonomie financière. Ensuite, l'après-midi, une manifestation dans la ville de Nantes. Le samedi soir, une soirée festive. Le dimanche matin, encore 2 tables rondes sur la montée des extrêmes droites et religieux et sur la justice climatique et la souveraineté alimentaire. Et ensuite, le livre blanc des revendications et à 13h, la clôture avec un pique-nique féministe. Donc, si vous souhaitez participer à ce forum, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on organise un covoiturage. Et puis, pour avoir un petit compte-rendu de ce qui s'est passé, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre émission de radio. Et là, aujourd'hui, on va vous expliquer un peu plus en détail donc, ce que c'est que cette Marche mondiale des femmes et donc la 4e action internationale. C'est un mouvement qui existe depuis 1998 et qui travaille à la construction d'un autre monde en partant de nos stratégies, de nos réflexions et de nos alliances internationales. En nous réaffirmant dans la résistance, l'affrontement et la construction d'alternatives au modèle patriarcal, capitaliste, raciste, lesbophobe et colonial. Voilà, ça c'est un des messages de la Marche mondiale des femmes. Donc il y a 5 thèmes cette année et on va parler du premier thème donc, qui est travail et autonomie financière. Donc l'autonomie économique des femmes se réfère à leur capacité à pourvoir elles-mêmes à leurs besoins ainsi qu'à ceux des personnes qui dépendent d'elles et à pouvoir décider de la meilleure façon d'y parvenir. Et donc en ce sens-là, l'autonomie économique, c'est une notion plus large que l'économie financière dans la mesure où elle comprend aussi l'accès à la sécurité sociale et aux services publics. Voilà, et voilà, la question c'est pourquoi a-t-on besoin en 2015 de parler du travail des femmes ?
Bah, tout simplement parce que la reconnaissance du travail des femmes, leur participation à la vie économique et leur accès à l'autonomie financière sont les facteurs de leur émancipation. Sans travail, on ne peut pas être libre.
Et alors, quelles sont les discriminations que vivent les femmes dans le domaine professionnel ?
Dans la plupart des pays du monde, elles sont discriminées dans l'accès au marché du travail et dans leur carrière. Il suffit de voir rien qu'en France, hein, chez nous, on constate encore 27% d'écart entre les salaires. Et elles sont aussi victimes d'emplois précaires, à temps partiel, etc.
Et le travail domestique, en quoi est-ce qu'il pénalise le travail des femmes ?
Bah dans la plupart des pays, elles assurent encore l'essentiel des tâches domestiques. Elles travaillent donc 2 fois plus que les hommes et sont pénalisées par leur maternité. Donc, de nos jours, les ONG cherchent à promouvoir des programmes d'autonomisation pour qu'elles puissent obtenir enfin des emplois décents, pour avoir un peu d'actifs, qu'elles cumulent un peu d'argent et qu'elles puissent avoir surtout une influence sur les institutions politiques. Sinon, le changement ne risque pas de s'opérer.
Et alors, à quoi ressemble le travail des femmes ? Quelle est l'analyse de la Marche mondiale des femmes ?
Donc pour la Marche mondiale des femmes, ils considèrent que dans les 20 dernières années, la progression de l'emploi féminin total, donc tous les secteurs confondus, repose principalement sur l'augmentation des emplois précaires de tout type occupés par des femmes. Donc les femmes occupent la majorité des emplois atypiques, précaires, qui n'offrent pas les mêmes protections sociales ni les mêmes avantages sociaux que les emplois à temps plein. Le temps partiel est la facette la plus connue des emplois précaires, mais ceci inclut plus largement tout emploi non standard, comme les mesures, les programmes d'employabilité, le travail temporaire à durée déterminée, le travail avec les agences de placement ou le travail d'autonomie.
Et alors, est-ce que quand on parle de travail des femmes, on parle uniquement du travail salarié ?
Mais il est là le problème. La notion de travail continue trop souvent de se référer uniquement au travail salarié et exclut le travail domestique, ou celui lié aux soins des enfants, des proches dépendants, ainsi que toute autre activité bénévole de service à la communauté. Le travail gratuit, il est non reconnu, il est encore largement le lot des femmes, et le partage des tâches au sein de la famille demeure toujours inégal. Ce que l'on nomme le travail invisible de la femme.
Alors, quelles sont les solutions concrètes qu'on peut apporter à cette situation ?
Bah, disons que les ONG, ce qu'elles cherchent à faire, c'est qu'elles s'adressent aux femmes les plus pauvres, celles qui sont dans les milieux ruraux, qui sont faiblement qualifiées et immigrées, en leur proposant des systèmes comme la microfinance. C'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Hein. Ça permet d'avoir un droit au crédit qui leur permet d'avoir une épargne et d'investir dans des activités qui procurent des revenus. Donc, c'est déjà un petit début pour avoir des gains de pouvoir. On voit aussi qu'en Inde, il y a une expérience avec l'UNICEF. C'est copiloté par le chercheur britannique Guy Standing et l'activiste indienne Renana Jabala. Des projets pilotes de revenus de base sont en cours dans des villages ruraux de l'Inde depuis janvier 2011 sur une base de 200 roupies par mois par adulte et 100 roupies par enfant. Donc, près d'un an après le début de l'expérimentation, on a pu constater qu'il y avait des résultats positifs sur leur nutrition, sur la santé, sur l'éducation, sur les infrastructures et l'activité économique en général.
Oui, donc la question du travail des femmes est vraiment liée à l'autonomie et voilà, avoir un revenu personnalisé, ça leur permet aussi de pouvoir gérer elles-mêmes cet argent pour avoir de quoi vivre et de pouvoir s'insérer dans la société sans dépendre d'un homme. C'est ce qu'on souhaite partout dans le monde.
C'est ça, c'est le fait qu'elle puisse être indépendante puisque avoir son autonomie financière permet de s'émanciper face à la domination patriarcale des sociétés.
Alors, merci Patricia. Et on va parler d'un autre des grands thèmes, des cinq grands thèmes de la Marche mondiale des femmes qui s'intitule « Migration et mondialisation ». Et pour introduire ces thèmes, on a choisi une chanson que vous allez reconnaître. Je vous laisse écouter.
On l'a trouvée plutôt jolie, Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut un noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier du secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs.
Elle avait chargé des cajons, Lily, elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous.
Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Et dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point majeur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur.
Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily.
Alors vous êtes sur RCN 90.7 ou peut-être sur Radio Déclic et vous venez d'entendre Pierre Perret et les Ogres de Barbac qui chantaient Lily. Vous êtes avec le collectif Debout, collectif féministe. On vous parle de la marche mondiale des femmes et notamment du thème migration et mondialisation. Je vais vous faire partager un extrait de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité dans la catégorie justice, affirmation 1. Tous les êtres humains, indépendamment de leur pays d'origine, de leur nationalité et de leur lieu de résidence, sont considérés comme des citoyennes et des citoyens à part entière jouissant de droits humains, droits sociaux, économiques, politiques, civils, culturels, sexuels, reproductifs, environnementaux, d'une manière égalitaire et équitable, réellement démocratique. Alors, pourquoi a-t-on besoin de parler de migration ?
Alors, il faut savoir déjà, pour la migration, parler de migration dans le contexte de la mondialisation, la migration, ça va regrouper, c'est un mot large qui regroupe plusieurs réalités. En fait, on va entendre dans le mot migration, les immigrés, les expatriés. Alors souvent on fait une différenciation qui est assez factice parce que les immigrés ça va être plutôt des personnes qui viennent des pays du sud vers les pays du nord, et quand on est dit expatrié, c'est qu'on va plutôt du nord vers n'importe quel autre pays, que ça soit nord au nord ou nord sud. Donc déjà là il y a un peu une injustice de fait, et souvent on confond aussi immigrés et réfugiés politiques. Alors, les immigrés migrent pour des raisons personnelles, pour trouver du travail ou pour rejoindre leur famille. Un réfugié ou une réfugiée politique migre parce qu'il n'a pas le choix. Il doit fuir une situation dangereuse dans son pays, que ce soit la guerre ou par exemple, pour certains homosexuels... Dans des pays où c'est interdit, où il y a la peine de mort pour cette orientation sexuelle, ils sont obligés de migrer. Et du coup, souvent, en Occident, on se dit « bon, est-ce que c'est à nous d'accueillir toute la misère du monde et tout ça ?» Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix d'accueillir ces personnes. Enfin, c'est une sorte d'obligation morale.
Parce qu'il y a aussi une responsabilité, en fait, de la situation géopolitique mondiale.
Oui, voilà. Voilà, il y a une responsabilité. Et puis, souvent... Alors, on entend les féministes qui disent... Enfin, on nous dit souvent, nous féministes, que... En Occident, on a déjà tout. C'est dans les pays du Sud qu'il faut se battre parce que, justement, il y a ce truc de hiérarchie, en fait, des civilisations, comme si la civilisation occidentale avait le privilège d'avoir des valeurs universalisables comme la démocratie, le féminisme. Et on est quand même assez souvent dans un contexte de paternalisme néocolonial qui est très présent, où on se dit que ben voilà, il y a d'un côté le nord où tout se passe bien, le féministe, il y a plus rien à faire, et puis de l'autre côté les pays du sud où il y a encore beaucoup de travail, et c'est un petit peu dommage de faire une frontière voilà.
Alors, le slogan phare de la marche mondiale des femmes, c'est justement « Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche », donc au niveau international. Voilà. Et pour en revenir à la migration, alors en quoi la migration participe à l'émancipation des femmes ?
Alors, ça peut être pour se protéger de certaines situations dangereuses dans les cas des réfugiés. Mais il faut savoir que souvent, on a encore trop le cliché que c'est les hommes qui viennent pour faire le travail, d'ailleurs, dont qu'on veut pas faire en Occident. Mais on se dit, il faut pas qu'ils ramènent la femme et les cinq gosses. Et du coup, on est... En Europe, il y a encore beaucoup de gens qui sont contre les flux de migration à cause de ça. Alors qu'en fait, c'est souvent les femmes. Maintenant, c'est plus de 5%. 50% des immigrés sont des femmes qui viennent en tant que célibataires ou qui devancent leur mari. Et ça peut être des femmes d'Asie, d'Afrique, du Nord, du Sud, mais qui viennent aussi pour faire des études. Enfin, il n'y a pas... Il y a plusieurs...
Et dans une démarche d'autonomie.
Oui, voilà, dans une démarche d'autonomie.
Parce que c'est ça aussi, les mouvements migratoires, hein, ce qu'on a tendance à oublier. Alors actuellement, on vit dans un monde où il y a un droit hein, pour les marchandises à circuler. Et finalement, ce droit devrait être avant tout pour les êtres humains.
Ouais, voilà. Alors, il y a une espèce d'hypocrisie de dire d'un côté, on veut de la croissance, et puis un marché totalement libre avec les marchandises qui circulent sans frontières. Et d'un autre côté, on sait très bien que la croissance, elle part de... Enfin, en fait, que la démographie, elle est facteur de croissance et que l'immigration permet aussi de... Enfin, est facteur de croissance. Et du coup, il y a une certaine... hypocrisie en Europe où par exemple 75% des Français sont pour la réduction des flux de migration alors que on voit très bien que c'est un problème qu'il faut, enfin c'est pas un problème justement, c'est pas un problème. Et par contre le problème c'est que ben il y a deux semaines il y a encore 700 migrants qui sont morts en Méditerranée. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est donc des Africains, des gens pauvres. Et du coup, ça intéresse personne quand des pauvres, en plus noirs ou arabes, qui meurent en Méditerranée, ça intéresse personne. Alors que si ça avait été des Blancs... riches qui étaient morts, là, on n'aurait pas... Enfin, on en aurait fait tout un tollé. Donc, il faut vraiment réagir, quoi, et trouver des solutions pour accueillir les flux migratoires et que ça se fasse dans la dignité de...
Et dans le respect, des
droits humains.
Donc voilà, c'est une thématique aussi qui va être abordée donc pour le mouvement international de la Marche mondiale des femmes. Et voilà, le féminisme se mondialise aussi et prend en compte des questions à ce niveau-là. Et voilà, moi je voulais vous rappeler, c'est une petite phrase de la CIMAD que je trouve très juste, « Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre ».
Voilà, et on est tous l'étranger de quelqu'un, et c'est important de se décentrer, de décoloniser un peu notre esprit, parce que c'est ça aussi, il y a des héritages néocolonialistes qui font qu'on va avoir une attitude de...
Une attitude différenciée, voire raciste, et ça ne permet pas d'aborder...
Raciste, ouais.
La complexité de la situation actuelle.
Voilà. Alors
on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On voulait vous parler aussi de la caravane européenne. Donc, c'est une caravane qui sillonne l'Europe en ce moment même, la caravane de la Marche mondiale des femmes. Alors, je vous lis un petit peu leur descriptif. « Quand les femmes bougent, le monde bouge. Partant de la Turquie le 8 mars pour arriver après 17 000 km au Portugal en octobre, une caravane conduite par de jeunes féministes recueillera le témoignage de femmes qui la rejoindront. As-tu déjà vécu une injustice et as-tu trouvé un moyen pour y répondre ? Cette question sera posée aux femmes rencontrées tout au long de ce voyage. Nous établirons ainsi une carte et une mémoire des luttes et des résistances des femmes en Europe.
Des femmes kurdes qui combattent depuis des années pour leur indépendance, aux femmes grecques et portugaises résistant aux politiques d'austérité, les femmes luttent et inventent d'autres manières de vivre et de s'organiser collectivement. Pour la quatrième action internationale de la Marche mondiale des femmes, nous avons décidé de mettre en avant ces luttes et alternatives. Une caravane féministe partira donc du Kurdistan turc le 8 mars 2015 pour arriver au Portugal le 17 octobre 2015. Elle passera par une quinzaine de pays d'Europe. La MMF est un mouvement international féministe, altermondialiste, anticapitaliste, qui rassemble un grand nombre de femmes et d'organisations. Elle lutte contre les causes de la pauvreté et de la violence contre les femmes. Le passage de la caravane est l'occasion de mobiliser localement des groupes de femmes en résistance, de faire des liens entre les féministes d'Europe, de recueillir leur mémoire et de la transmettre plus largement. C'est aussi un lieu de vie collectif, alternatif, un lieu d'apprentissage permanent, de partage et de créativité.
Voilà, vous pouvez retrouver le trajet complet de la caravane, hein, qui parcourt vraiment toute l'Europe. Le 8 mars, elles étaient au Kurdistan. On vous avait pu entendre un témoignage le mois dernier d'une Kurde, hein, qui a été chassée de son pays. Le 12 mars, la caravane arrivait à Thessalonique. Le 23 mars, voilà, il y avait une action, par exemple, pour protester contre la liquidation et la vente d'une entreprise autogérée. Le 28 mars, la caravane était à Bucarest et a rencontré des femmes roms. Le 7 avril, la caravane est en Bulgarie, etc. Vous pouvez suivre de toute cette actualité. Et on vous diffuse donc là tous les mois jusqu'en octobre la radio de la caravane dans la rubrique témoignages.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Marche mondiale des femmes. Caravane féministe. Nos carnets de route.
Acceso a la tierra, la propiedad, la ciudadanía y la alfabetización.
Marion, au Kurdistan, nous envoie le témoignage d'un professeur d'anglais d'Amet qui nous parle de la situation des Kurdes en Turquie avec des problèmes de changement de nom kurde en nom turc pour les villages, les villes et même pour les gens.
Have changed in 1990s. In 1990s, especially, they've changed all the villages, towns, and cities' name to Turkish. Now, after we've gained a lot, our municipality, we changed our names, city names. For example, my dad, he's a villager, he's an old man. When you say Diyarbakir or a village name, you say, where, what? He doesn't know that city because he knows Ahmet, he knows village with Kurdish names, and Turkey have changed all to Turkish because say you are Turkish, you and your animal will be Turkish. You speak Turkish, your cities, your names. For example, my sister's name at home is Rojda. We call her Rojda. Rojda in identity card it is Zeynep. And many other tragicomic and really torture. It's so unfair.
Elle nous parle de son père, par exemple, qui ne reconnaît plus le nom de son village. Il est âgé et donc il connaît uniquement le nom kurde. Et on lui parle du nom turc. Il dit il est complètement perdu. Et puis elle nous parle aussi, ensuite, des villages en 1990 qu'on a brûlés. On a brûlé 2000 villages et chassé les habitants.
Our villages, 2000 villages. And all that villages and people, they went to the big cities.
Oui, les habitants donc, ont été chassés dans les villes. Et elle explique aussi, quand on voit ce que font les Turcs aux Kurdes, on ne peut qu'être militant. Et ensuite, elle nous explique son combat, dont je vous parlerai ensuite. On l'écoute.
So unjust, so unfair. As Kurdish women here, we fight, we struggle, and we call all the women to fight for equality and justice. And I am sure they will wake up from that sleep, that they are not asleep. In all around world, especially in Kurdistan, women have been treated as slaves for thousands years, and we say stop, enough, and we will change that, and we will win the revolution. to the women in all around the world in Europe, hear us, know us, help us, support our Serok Öcalan, and we will win. We are winning. We won. Biji Kurdu Kurdistan.
Donc elle nous parle de son combat et les femmes au Kurdistan ont été considérées comme des esclaves pendant des milliers d'années. Et là maintenant, elles combattent, elles disent stop, c'est assez. Et elles veulent qu'en Europe on les connaisse, on connaisse leur combat et elles veulent être solidaires du combat des femmes. Et cette marche, je pense, leur apporte énormément, puisqu'elle, c'est énormément de réconfort pour voir que dans tous les pays, les femmes s'unissent pour justement lutter contre les formes d'inégalité, d'injustice. Elle le dit souvent, c'est trop injuste tout cela. Nous avons maintenant un témoignage d'une jeune Serbe qui fait partie de la caravane et qui va vous livrer ses impressions.
Hi Mina.
Bonjour.
Hi.
Mina. Bonjour Marion.
How do you feel about this first day of the caravan?
Quelles sont tes impressions du premier jour de la caravane?
My emotions are very ambivalent and very.
Mes émotions sont très ambivalentes et intenses.
Too many things happened, you know, since we came from Belgrade to
tout ce qui est arrivé depuis Belgrade jusqu'à maintenant.
Put them on their place.
Je dois les remettre en place. Elles sont en désordre.
Yeah. And about meeting so many women from everywhere.
Et de rencontrer tant de femmes de partout.
Oui. The great experience.
C'est une grande expérience.
For me, the most beautiful thing what happened.
La plus belle chose qui me soit arrivée est de rencontrer deux filles merveilleuses,
Hélène et Zian.
Elles ont 17 et 19 ans.
She wants to become a lawyer.
Elle veut devenir avocate.
Is in jail and
parce que son frère est en prison.
Six brothers and four sisters.
Elle a six frères et
so
quatre sœurs. Elle est si courageuse et agréable.
We were at the border.
Nous étions à la frontière de Syrie.
And we take flowers to make something.
Nous prenions des fleurs pour mettre dans nos cheveux.
You know, and then came police.
La police est arrivée et nous a dit de partir.
We just went, and that girl, Helene, she
realized
that she don't have enough flower for that.
Et cette fille, Helene, n'avait pas assez de fleurs. Elle est allée
taking the flowers
et s'est mise à cueillir des fleurs.
She's young and she's aware of situation.
Elle est jeune, elle est au courant de la situation.
She's so brave
mais elle est si courageuse.
She's giving resistance, you know.
Elle est résistante.
Like, what the fuck, you police? I'm going to take flowers.
Elle n'a pas fait attention à ce que la police disait en disant je veux cueillir des fleurs.
Maybe I'm romanticizing this thing.
Elle a rendu romantique cela.
It was so great. She's
c'était
so young
génial.
And so brave and so
elle est si jeune et si courageuse.
I know. It's great to meet her.
C'était yeah. vraiment bien de la rencontrer.
You will meet a lot of other women in the way of the caravan.
Vous allez rencontrer beaucoup d'autres femmes dans le caravan.
How do you feel for this next 8 months? Do you still want to stay in the caravan?
Est-ce que
yes.
vous voulez? Est-ce que tu
You're
veux rester
afraid?
Dans la caravane?
Of course I am.
Oui.
Yes.
Est-ce que tu as peur?
Afraid,
bien sûr, j'ai peur.
I'm also in love for everything that is going to happen.
J'ai peur et je suis amoureuse de tout ce qui arrive.
Experience, different experience, like we have that Bukowski hotel in
Nous avons
in
des expériences très différentes
yes,
comme cet hôtel
so
Bukowski à Istanbul qui était si dégoûtant. Avec la situation avec ces filles. Nous avons besoin d'expériences différentes.
You know, some beautiful stuff and
et de vivre des choses de belles choses aussi.
Your feeling, Mina, during this caravan.
Nous allons suivre tes okay, impressions, yeah. Mina, au cours de cette caravane. Dans un mois, vous retrouverez les carnets de route de Marion avec d'autres chemins de vie, d'autres témoignages, d'autres solidarités. À bientôt sur l'antenne de Radio B.
Voilà, vous venez d'entendre les témoignages de la caravane féministe qui sillonne l'Europe. Et voilà, c'est important de pouvoir écouter les témoignages des femmes en tant que sujet politique partout en Europe. Et on va tout de suite passer à notre rubrique « Être féministe, c'est quoi ?» Alors, on reproche souvent aux féministes d'être anti-mecs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, bon, le féminisme, ça, on se propose de lutter contre le patriarcat. Sauf que le problème, c'est qu'on vit dans une société patriarcale. Donc, on a tous une éducation qui va être, on va dire, sexiste. Et surtout, quand on est élevé en tant qu'homme, il y a des choses qui, dans une... même dans la vie de tous les jours, dans les discussions et tout ça, on se rend compte qu'en fait, on observe des phénomènes de... On appelle ça « mansplaining », donc en anglais, la traduction, c'est « m'explication », des hommes qui, en fait, se permettent d'expliquer souvent aux féministes comment elles doivent lutter, comment elles pourraient mieux faire, en quoi elles nuisent à leur lutte en étant comme ci ou comme ça, ou tout simplement d'expliquer en général à une femme, c'est quand un homme explique à une femme qu'il sait mieux qu'elle, que...
Ouais, j'ai vu des images humoristiques là-dessus sur le mansplaining, et par exemple c'est un homme qui dit « Ah bah tes idées sont beaucoup mieux quand c'est moi qui les reformule ». Ou encore, si ce que je dis t'offense, eh ben, ça doit être toi qui es trop sensible. Voilà, c'est une manière de toujours justifier, de ne pas tenir compte de la parole des femmes comme ayant sa place et ayant besoin, à prendre avec respect.
Voilà, donc ce qu'on demande, c'est tout simplement pour un homme dans la lutte féministe, c'est d'être à l'écoute et de laisser la place en fait à la parole des femmes. Et il y a aussi le phénomène de manspreading, donc là c'est le fait de prendre toute la place pour un homme, donc de monopoliser la parole, mais aussi de s'étaler, je sais pas, dans les transports en commun, quand on voit qu'ils prennent plus la place en écartant les jambes ou je sais pas, des choses comme ça, de faire attention à ces petites choses en fait qui peuvent être senties comme des agressions pour les femmes en fait.
Alors du coup, quelle place pour les hommes dans la lutte féministe ?
Alors, c'est pas qu'on n'en veut pas. Du coup, on a besoin quand même d'un soutien, d'une écoute et pas seulement justement d'arrêter avec ce mansplaining. Mais je pense qu'un homme peut se dire féministe au même titre qu'un blanc ou qu'une blanche peut se dire antiraciste. On a tous été élevés dans une société patriarcale et on rejoue tous les jours le sexisme ambiant, mais sans nous en apercevoir. Et le but, c'est pas de faire une guerre des sexes, mais bien de lutter tous ensemble pour avoir les mêmes droits à la dignité pour tout le monde, le droit au choix. Et toute personne qui veut déconstruire ses a priori et décoloniser son imaginaire sexiste, raciste, parce que tout ça, ça va ensemble. Se questionner aussi sur ses privilèges dans la société patriarcale et néocoloniale. Et bon, toutes ces personnes-là sont les bienvenues pour lutter contre le patriarcat, le capitalisme et toutes ces choses dont on ne veut plus. Et du coup, les hommes sont tout à fait les bienvenus dans la lutte féministe, même si la marche mondiale des femmes, le féminisme, c'est avant tout pour l'émancipation des femmes. On a besoin aussi de soutien et n'hésitez pas à venir.
De partager cette lutte, en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on est un collectif mixte.
C'est pour ça. Et puis, n'hésitez pas à venir aussi, en tant qu'homme, à la Marche mondiale des femmes, pour venir écouter, s'informer, apprendre des luttes des femmes à travers le monde, pour un petit peu se décentrer de son quotidien ouais. Sexiste, ordinaire.
Et justement, on va vous passer la chanson. C'est un homme qui chante. C'est le groupe Sinsemilia. Et la chanson s'appelle Née Elle.
Depuis des générations et des générations, depuis les prémices des premières civilisations, une majorité. n'en est pas une pour sa domination. À une minorité qui n'en est pas une et subit l'oppression. D'un apartheid sans couleur, sans frontières, sans nation. Et dont l'on est si loin de l'abolition. Sans parler de soumission, elle s'est faite une raison. Elle est née, elle est pas lui, elle est pas lui. Elle n'aura pas les mêmes chances que lui, pas les mêmes droits, lui si. Elle est née, elle est pas lui, elle est pas lui. Elle n'aura pas les mêmes chances que lui, pas les mêmes droits dans la vie.
Vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout. Vous venez d'entendre Cynthia Emilia, elle est née elle. Et on vous parle donc de féminisme. On revient sur la marche mondiale des femmes avec un troisième thème qui est la montée des extrêmes droites et extrémisme religieux. Alors pourquoi les féministes ont-elles besoin de parler de l'extrême droite ?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a une crise économique, les gens ont tendance à se tourner vers l'extrême droite. Or, c'est un régime de dictature, c'est vraiment l'autocratie. Et les femmes, bien entendu, sont les premières à payer parce que l'extrême droite, c'est d'une part racisme et c'est aussi misogyne. Le but des partis d'extrême droite comme le FN, c'est clairement de renvoyer les femmes à la maison. Ils considèrent que le rôle de la femme, c'est d'être au foyer, de procréer, d'assurer les tâches domestiques. Pour eux, c'est un être inférieur qui ne devrait pas avoir son mot à dire. De toute façon, on voit que pour eux, que les femmes sont toujours exclues, mises de côté. Et en plus, on a un exemple vraiment fort, c'est Marine Le Pen, l'avortement qu'elle considère comme un confort et voudrait dérembourser au niveau de la sécurité sociale.
Et ce qui est bien loin de la réalité de ce que vivent les femmes par rapport à l'IVG. Et alors pourquoi parler d'extrémisme religieux ?
Parce que le fanatisme religieux, c'est pas mieux que l'extrême droite, hein. Ça va dans le même sens. La différence se trouve simplement dans le fait que l'hégémonie, donc la volonté de domination, ici elle sera pas laïque mais religieuse. Elle amène toujours à considérer la femme comme un individu qui doit être sous le contrôle du père puis du mari, qu'il n'y a aucune liberté. Donc quoi qu'il en soit, on a des femmes qui sont soumises à un code de la famille qui est vraiment patriarcal.
Alors, ouais, une autre affirmation de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité dans la rubrique égalité. Aucune coutume, tradition, religion, idéologie, aucun système économique ni politique ne justifie l'infériorisation de quiconque et n'autorise des actes qui remettent en question la dignité et l'intégrité physique et psychologique. Alors, sur ce sujet de la montée des extrêmes, on voulait vous partager un morceau de Stratégie de paix. Donc, Stratégie de paix, c'est un groupe de rap militant, constructif, conscient, non marchand, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle « Encore un bout de chemin », qui est en téléchargement gratuit donc sur leur site stratégiedepaix.fr. Et on voulait vous faire écouter le morceau qui s'appelle « Contre-pied » et qui parle donc des antisystèmes. Ces personnes qui s'appellent antisystèmes, c'est en fait le nouveau nom de l'extrême droite, comme par exemple Dieudonné.
Risquer de dire, d'écrire, pour s'obliger à réfléchir et faire réfléchir nous, combattant des injustices, tant qu'on trouve des ressemblances avec ceux qui les subissent. Faut parler de la Palestine parce que c'est tellement facile, pendant que tant de peuples meurent dans un silence tragique. J'ai pas dit qu'il fallait pas en parler, mais avouez que cette euphorie porte aussi des sens cachés. Tu dis sionisme, les v'là tous endoctrinés. Eux ils savent, donc maudits soient ceux qui défendent d'autres idées. Bienvenue dans le règne des schémas binaires. Chasse la raison, il reste l'arbitraire. Ces colons de la pensée aux solutions simples. Manque de propos nuancés et de convictions humbles. Trop orientés pour des prises de position sensées. Ils ne savent que crier des opinions tranchées. Tellement convenues, si peu de contenu. Y'a pas que les médias qui hiérarchisent les gens qu'on tue. Ta mort fait pas de buzz, personne bougera le moindre doigt. Au mieux pour le Tibet, ce sera la mode pendant un mois. Se faire mousser sur la souffrance à Saoui. Mais je vois peu de monde s'indigner pour les Kurdes et les Sahraouis. Tchétchènes ou Congolais, dommage tout le monde s'en fout. T'as plus qu'à attendre que le vent tourne. On critique tant qu'on n'est pas responsable. Tant qu'il n'y a pas de remise en question de soi. Les adeptes du complot et des tests qu'on spie servent des recettes toutes faites au cas complexe qu'on vit. Il était une fois, dix monstres banquiers. Posés sur le toit du monde, ils gouvernaient le monde entier. Faites de beaux rêves, on vous endort avec des fables. Quand t'ouvres les yeux, tu es à table avec des faffes. Dur est le réveil pour un jour de colère. Je préfère encore la naïveté du grand soir révolutionnaire. Quand même, je me méfie des faux qui dorment et des foules qui manifestent. Tu ne me verras suivre aucune mode sauf la cause palestinienne.
On est à plus de, je sais pas, de 6000 bornes de ce conflit-là. Alors essayons de débattre, essayons de prendre un petit peu de recul aussi, et de sortir des réactions épidermiques, et surtout la paix, bordel de merde, la paix.
J'ai dit ne pas me reconnaître dans la mère patrie, pas pour autant que tu me verras cautionner la haine gratuite. Ça insulte à tout va, chaque symbole de la nation la provoque, attise les frustrations. Quand on parle d'identité, pesons chaque mot. Quand on parle d'identité, pensons à l'autre. Pas simple, monter en flèche des amalgames, mais souffler sur les braises, vous servez de mèche à la flamme. Allez brûler des drapeaux, les caméras sont prêtes à filmer. Qui veut éteindre le feu, arrête de propager de la fumée. D'accuser les blancs d'être responsables de toutes les misères et tomber dans le racisme primaire. Parlons-en, ce n'est pas le monopole des franchouillards. Ils se baladent en boubou, en kippa ou en foulard. Intolérants laïca aux fanatiques religieux, ils ratissent large, qu'importent les origines et le milieu. Il est le cancer qui s'exprime partout. Riche ou pauvre, la lutte des classes n'explique pas tout. Les idéologies servent souvent à se dédouaner et à prôner la révolution sans se regarder. La première qualité du militant, se confronter à son miroir avec humilité. Le pire défaut, être borné et sûr de soi et tomber dans le deux poids deux mesures ou le deux mesures deux poids. Je sais qui je suis, j'ai pas attendu Finkel Crote et tous ceux qui font leur beurre sur la peur de l'autre. Déplorable, je découpe dans le même sac poubelle le patron du cri faire l'insoral. Là aussi la liste est longue, tu veux des noms? BHL, Kémy Séba, Zemmour, Dieudonné Boutin et Farida Begoul. Rajoute une poignée de prétendus antifascistes, apôtres du racisme, anti-blanc, des magots et faciles.
Hey, ouais, tu crois qu'il y aura assez de place dans un seul sac poubelle?
T'sais, ils sont pas si nombreux que ça. Hein. T'inquiète, faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Les extrémistes ont des grandes gueules, mais les autres se font tout petits. Je brise l'omerta, marre d'être représenté par des gens sans nuance qui font dans le buzz et dans l'urgence. Pour notre part, libre penseur non aligné, on laisse au game le consensus. Nous, on fait dans le débat d'idées. Loin des lieux communs préfabriqués et des positions unanimes, mieux vaut s'équilibrer sur le fil du rasoir que suivre la ligne du parti. Regarde-les se guérir par des pamphlets de certitude, n'exister que par l'accord aveugle de leur tribu. Je vous laisse vos statuts stériles sur Facebook, votre compassion débile, parce que tout ça c'est de l'esbrouf. Laisse brouter les moutons qui se prennent pour des panthères, suivent leur gourou par la laisse, comme un caniche et son maître. S'il y a des maîtres, c'est qu'il y a des esclaves qui respectent les règles établies et acceptent les cases. Réveille-toi, tu deviens une machine à répéter des arguments de mauvaise foi. Et des slogans passent partout, sauf que dans la vie tout dépend d'eux et c'est tant mieux. Qui prétend prendre position sans cerner les enjeux? Le paradoxe, c'est qu'on porte des grandes causes avec nos petits bras et on se trompera chaque fois que l'idéologie nous guidera. En 2012 à contre-champ, ma caméra zoome sur la décadence d'une époque. 2014, ma plume vise les contradictions des partisans de la révolte, animés par des convictions fortes et de la nuance, donc comprenez, je me devais de prendre tous les pseudos anti-système à contre-pied.
Vous venez d'entendre Contre-pied de Stratégie de Paix, vous êtes sur RCN 90.7 ou peut-être sur Radio Déclic aussi, avec le collectif Debout. On vous parle aujourd'hui de la Marche mondiale des femmes, ce mouvement international qui est dans sa quatrième grande action, donc qui a lieu tous les cinq ans. Donc cette année, en 2015, c'est le moment d'action et aussi donc d'un forum national qui aura lieu à Nantes les 5 et 6 juin. On va parler donc des autres thèmes. On vous a déjà parlé donc du travail et de l'autonomie financière, de la migration et de la mondialisation, de la montée des extrêmes droites et religieux. Deux autres thèmes de la Marche mondiale des femmes, c'est les violences faites aux femmes.
Alors la violence envers les femmes, elle est structurelle. Il s'agit d'une caractéristique qui est inhérente au système patriarcal et capitaliste dont les hommes, les groupes d'hommes, les institutions patriarcales et les États se servent pour contrôler la vie, le corps et la sexualité des femmes. Bien que la violence touche les femmes en tant que groupe social, il faut comprendre ses différentes formes, l'époque où elle a lieu et les raisons qui l'engendrent, car chacune des violences commises est insérée dans un contexte différent. Dites-vous bien que le féminisme n'a jamais tué personne alors que le machisme tue tous les jours.
La violence faite aux femmes, c'est une thématique qui revient hélas à chaque fois. Voilà, on aimerait arrêter d'en parler, on a déjà fait différentes émissions dessus. Hélas, c'est la situation et il faut en parler, il faut l'analyser et surtout il faut en sortir. Un autre thème de la Marche mondiale des femmes, c'est justice climatique et souveraineté alimentaire. Alors, ce qu'on appelle souveraineté alimentaire, c'est le droit international pour les populations de mettre en place des politiques agricoles les mieux adaptées à elles-mêmes et sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Donc, la souveraineté alimentaire est donc une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles qui sont mis en œuvre par l'OMC. Donc, par exemple, au niveau local, la souveraineté alimentaire va favoriser le maintien d'une agriculture de proximité qui est destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux. La souveraineté alimentaire privilégie des techniques agricoles qui favorisent l'autonomie des paysans.
Voilà, il faut savoir que le changement climatique nous affecte tous et toutes, mais pas de manière égale. Il ne se résume pas à une problématique environnementale, mais c'est avant tout une question d'équité et de justice globale à l'échelle mondiale.
Alors moi, je vous lis encore des affirmations de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité qu'on aimerait vraiment qu'ils soient réellement mises en place. C'est une proposition qui est faite, voilà, à vous de voir le bon sens de ces affirmations. Donc dans la catégorie solidarité, affirmation 4, les ressources naturelles sont administrées par les peuples vivant dans les territoires où elles sont situées, dans le respect de l'environnement et avec le souci de leur préservation et de leur durabilité. Voilà, donc c'est pour l'instauration d'une véritable justice climatique, donc qui passe par l'application du principe aussi du pollueur-payeur, puisque finalement les principaux responsables de la hausse des températures mondiales et des pollutions devraient assumer leurs responsabilités et porter une réponse à cette menace globale. Et aussi en lien avec le thème de la migration...
On voit que le réchauffement, en raison du réchauffement climatique, on prévoit l'élévation du niveau de la mer de 3 cm à 8 cm dans les prochaines décennies. Et ça va affecter environ 146 millions de personnes, pour la plupart dans des pays en développement ou en voie de l'être, enfin des pays du Sud, comme on les appelle. Ouais.
Je crois que c'est donc une élévation du niveau de la mer de 30 à 80 centimètres.
Ah oui, voilà, 30. Oui.
Et c'est vrai que déjà actuellement, il y a des réfugiés climatiques et que voilà, c'est une question qui doit être considérée mondialement et dans le respect de l'humanité. Donc voilà, sur le thème justice climatique, souveraineté alimentaire, on vous donnera des retours de l'Agora féministe lors de notre prochaine émission. Et pour conclure, on voulait vous inviter à venir nous voir à notre réunion mensuelle, donc qui aura lieu le mercredi 20 mai à 19h au Centre culturel autogéré de Nancy, 69 rue de Mont-Désert. On se réunit dorénavant les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h au CCAN. Et ce mois-ci, on va fêter les 5 ans du collectif Debout. Donc, on va organiser une soirée d'anniversaire. Ça aura lieu le samedi 30 mai à 18h, toujours au Centre culturel autogéré de Nancy, au 69 rue de Mont-Désert. Alors, on avait envie de partager différentes activités. Donc, on a prévu de lire des extraits des monologues du vagin. Ce texte qui parle de la sexualité féminine, ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais en parler par le biais de témoignages de celles qui l'ont vécu. Une rétrospective, en fait, des actions qui ont été menées par le collectif Debout depuis 5 ans, avec des photos, des affiches, toutes les thématiques qui ont été abordées. On avait aussi envie de délirer un petit peu, et on vous propose un petit moment de karaoké féministe, hein, pourquoi pas, et également du slam. Voilà, une slam sur la thématique de l'égalité homme-femme. On a également invité Olympe Debout, donc qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle La quête de la vérité, et qui sera là pour présenter son livre. C'est une amie du collectif Debout, voilà, on l'a invité également. Et après, là, on va partir sur de la musique et de la danse pour fêter donc les 5 ans du collectif Debout. Encore peut-être un mot pour conclure. Moi, j'avais envie de remercier particulièrement Sarah et Laurent, donc qui sont des membres actifs du collectif Debout depuis 5 ans, qui vont déménager, mais vraiment les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté de savoir, de leurs paroles, de leur temps, de leur énergie. Et voilà, une bonne continuation à eux, un grand merci. Et voilà, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent rejoindre le collectif Debout, voire pour faire des actions avec nous, vous n'hésitez pas à nous contacter. Notre adresse mail, c'est contact@collectif-debout.org. Et vous pouvez retrouver toutes mes informations sur le collectif Debout et sur la Marche mondiale des femmes sur notre site internet www.collectif-debout.org. Et on se retrouve le mois prochain pour le retour de l'Agora féministe et aussi pour parler de plaisir féminin. Voilà, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des